Europe 1. Comme chaque dimanche, on vous retrouve, Patrick Cohen, pour cette arrivée demain.
Bonjour Jean-Marc Jancovici.
Bonjour.
Ingénieur consultant en climat-énergie, président du cercle de réflexion The Shift Project. Avant de voir vos propositions, ce constat, la Terre respire mieux depuis le début de la crise. Les confinements et l'arrêt des activités économiques ont fait chuter les émissions de CO2 de plus de 5% au premier trimestre, d'après les premières estimations. En réalité, c'est ce qu'il faudrait faire chaque année pour être dans la trajectoire de l'accord de Paris ?
C'est à peu près ça, oui. En fait, on a la physique et la chimie contre nous dans cette histoire, parce que le principal gaz à effet de serre que nous émettons, qui est le dioxyde de carbone, a la très mauvaise idée d'être éternel une fois qu'il est dans l'atmosphère, tant qu'il ne revient pas en contact avec le sol. La seule manière de retirer du CO2 de l'atmosphère, c'est qu'il soit repris par les plantes, par la photosynthèse, ou qu'il se dissolve dans l'océan. Et ça fait que le CO2 ne décroît que très très lentement une fois qu'il est dans l'air. Et donc tout le CO2 qu'on a mis dans l'air, maintenant, il faut vraiment s'arrêter d'en mettre et donc décroître très très vite nos émissions. Et pour respecter les 2 degrés d'élévation maximale de température entre ce qu'on appelle l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire 1850, avant qu'on commence à s'amuser avec les machines à vapeur, et 2100, eh bien, il faut que les émissions se mettent à baisser de 5% par an, tous les ans, par rapport à l'année précédente, pour les 30 ans qui viennent, on va dire. C'est-à-dire qu'en gros, il nous faudrait un Covid supplémentaire tous les ans, pour donner un ordre de grandeur, pour qu'on respecte les 2 degrés. On ne se rend pas compte à quel point c'est un effort titanesque. Il se trouve que l'accident que nous sommes en train de vivre en ce moment donne une meilleure idée de l'effort qui nous attend, et j'espère que ça va un peu réveiller les esprits, et qu'on ne va pas penser que ça va arriver comme ça d'un claquement de doigts.
Alors justement, votre idée, c'est pas de tout arrêter un mois par an. Vous venez de publier avec The Shift Project un document de 50 pages avec un plan de transformation de nos activités essentielles, un plan concret et détaillé. Hein. C'est pas de l'idéologie ou de l'incantation, Yaka Faucon, le temps est venu, etc. L'idée, c'est de trouver pour chaque secteur des solutions pour le rendre plus sobre, moins dépendant des énergies carbone.
Alors c'est exactement ça l'idée. Hein. Les émissions de CO2 viennent de l'utilisation de ce qu'on appelle les combustibles fossiles, alors très précisément pétrole, gaz et charbon. On les appelle combustibles fossiles parce que c'est des fossiles, c'est des restes de vie ancienne sédimentés par la géologie. Et il faut qu'on arrive à faire 5% de moins de ces combustibles, en clair, tous les ans. Alors le gros problème, c'est que c'est ça qui a fait la révolution industrielle, notre pouvoir d'achat, l'urbanisation, l'industrialisation, les transports faciles, l'agriculture pas chère, etc. Donc ça va pas se faire d'un claquement de doigts non plus. Ce que nous avons déjà publié, c'est notre plan de travail en fait. On a dit dans quel cadre on allait réfléchir et ce à quoi on allait réfléchir. Et le gros problème, pour être tout de suite désagréable, c'est que comme ces combustibles ont permis de mettre plein de machines au travail et d'augmenter très fortement la production, donc notre pouvoir d'achat, faire avec de moins en moins de combustibles fossiles, pour dire un gros mot tout de suite, c'est malheureusement travailler dans un contexte dans lequel l'économie n'est plus en expansion mais en contraction. C'est bien ça le gros problème. Et par ailleurs, tous les gens qui en ce moment ont peur ou ont déjà perdu de perdre leur emploi parce que ce qui est en train de nous arriver va se payer de quelques millions de chômeurs, se disent légitimement qu'un truc essentiel dans la vie, c'est quand même d'avoir un job. Donc le cadre dans lequel on va travailler, c'est comment on fait pour avoir un boulot dans un contexte dans lequel les émissions, donc globalement l'économie se contracte, tout en assurant à chacun une forme de confiance en l'avenir. Voilà, c'est ça l'espèce de quadrature du cercle à laquelle on va s'attaquer. Et pour être pragmatique, on va s'y attaquer secteur par secteur. Donc comment on fait pour se déplacer, comment on fait pour se loger, comment on fait pour se nourrir, comment on fait pour s'habiller, etc. Et on va faire ça en 2 temps. Le premier temps, c'est dans quelques semaines, on va faire des suggestions de contrepartie qu'il faudrait demander immédiatement au secteur qu'on est en train d'aider pour pas qu'il recommence comme avant. Manifestement, dans ce monde-là, par exemple, il n'y aura pas autant d'avions qui volent. Alors au moment où on donne un chèque à Air France, est-ce qu'on lui dit repartez comme avant ou est-ce qu'on lui dit non, faites autre chose, tout de suite, là maintenant, il y a des lignes que vous allez tout de suite fermer où on va tout de suite diminuer le nombre de créneaux au décollage à Orly et à Roissy et vous allez vous réorganiser en fonction. Pareil pour la construction automobile, pareil pour le bâtiment, pareil pour le tourisme, etc. Donc ça, c'est dans quelques semaines. Et après, entre l'été et la rentrée, on soumettra quelque chose de beaucoup plus détaillé. On va un peu faire concurrence à M. le maire, donc d'une certaine manière, ou plus exactement, on espère être écouté par lui, pour donner des grandes lignes et des choses assez concrètes. Hein. On va parler emploi, on va parler objet, on va parler choses à faire, on va pas parler argent tout de suite, parce que l'argent en ce moment, ça se crée, c'est pas très difficile. Par contre, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de savoir dans quoi les gens vont travailler et pour faire quoi.
Et oui, bah, pour prendre cet exemple que vous venez de citer, des milliers de salariés, des millions de familles qui ont beaucoup à perdre parce qu'elles vivent de l'automobile et de l'aéronautique. Vous avez des idées pour eux, pour elles, Jean-Marc Jancovici ?
Il faut bien distinguer deux choses quand on parle de l'économie. En fait, il faut distinguer les entreprises et les gens qui y travaillent. Ce qui va être important de notre point de vue, c'est les gens qui y travaillent. Je vais être tout de suite très désagréable. Si les actionnaires perdent leur argent, on s'en fiche complètement. Actionnaire, c'est pas une garantie de capital. Ça ne l'a jamais été. Moi, il se trouve que je suis actionnaire. Hein, à côté d'être président du Chief Project, je suis associé d'une société de conseil, donc je suis capitaliste. Et si jamais je perds mon capital, bah, ça fait partie de la vie, ça fait partie des risques que j'ai pris. On m'a jamais signé un contrat me garantissant que cet argent-là était inaliénable. Donc l'entreprise elle-même sera pas nécessairement au cœur de notre réflexion. Par contre, les gens qui y travaillent, oui. Alors qu'est-ce qu'on fait des gens qui travaillent dans l'automobile ? Ben, d'abord, il faut savoir qu'une partie des gens qui y travaillent aujourd'hui sont pas en France. Donc on va faire un distinguo nécessairement entre ceux qui y travaillent en France et ceux qui travaillent pas en France. Ensuite, il va y avoir des choses qu'on peut faire à bref délai et des choses qu'on peut faire à plus long terme. Donc il faut regarder par exemple les flux d'entrée-sortie. Regardez avec comment est-ce qu'on peut jouer. Vous pouvez très bien, pendant un temps, embaucher moins de gens que vous n'en faites sortir à cause des départs à la retraite. Et à ce moment, vous avez naturellement un secteur que vous pouvez faire baisser en effectif, pendant que ailleurs, et c'est toute la difficulté en général, vous augmentez les gens qui travaillent. Pour prendre un exemple, il y a un chantier dont on parle régulièrement depuis des années dans ce pays, qui est la rénovation du bâtiment. Vous savez qu'il va falloir modifier fortement beaucoup de bâtiments pour les rendre plus économes en énergie. Ça demande de faire rentrer des gens. Un rapide calcul montre qu'il faudrait quelques centaines de milliers de personnes en plus dans l'artisanat du bâtiment. Et en fait, la vraie question, c'est pas tant comment est-ce que vous faites un peu diminuer chaque année les gens qui travaillent dans l'automobile, ça c'est pas très très compliqué. La vraie question, c'est comment vous faites rentrer des gens, comment vous formez des compétences, comment vous leur donnez envie d'y aller, comment, etc. Ça va aussi être ça la question qu'on va se poser.
Beaucoup de questions encore à vous poser, Jean-Marc Jancovici. Vous restez avec nous, on va poursuivre dans un instant après une pause.
Europe 1, de 9h à 10h, vous écoutez Patrick Cohen pour cette arrivée demain sur Europe 1.
Avec Jean-Marc Jancovici qui dirige Shift Project, cercle de réflexion consacré à la transition énergétique, qui formule des propositions, on vient de l'entendre. Vous êtes une voix qui compte, Jean-Marc Jancovici, dans le débat sur le climat et l'énergie, expert très reconnu, mais avec deux singularités. Vous prenez à la fois le nucléaire, source d'énergie la plus décarbonée, que vous jugez indispensable pour la réduction des gaz à effet de serre, et aussi, vous venez d'en parler, la décroissance pour atteindre le même objectif. Est-ce que c'est tenable aujourd'hui dans nos économies appauvries et en récession et qui n'attendent justement que le retour de la croissance et de la prospérité ?
Alors malheureusement, on va pas tellement avoir le choix. C'est bien pour ça qu'on pense qu'on fait œuvre utile et on n'a pas envie d'être des prophètes de malheur et de dire aux gens « vous allez en baver ». Pas du tout. On a plutôt envie de dire aux gens « vous savez, ce qui a fait la croissance jusqu'à maintenant, c'est la disponibilité croissante des combustibles fossiles, du pétrole, du gaz et du charbon. Et il se trouve qu'en Europe, cette disponibilité est déjà contrainte à la baisse. En fait, elle y est contrainte depuis 2006. Quand on regarde très très bien ce qui s'est passé dans le monde occidental et très précisément et en détail, en fait, ce qu'on a appelé la crise des subprimes en 2008, c'était déjà une crise énergétique. Ça a été précédé par une stagnation de la production mondiale de pétrole, le début du déclin du pétrole conventionnel, tout ce qui n'est pas le shale oil, le pétrole de schiste et les sables bitumineux. Et il y a un lien direct et assez facile à établir entre ce qui s'est passé dans le monde économique et ce qui s'est passé avant dans le monde énergétique. Et là, nous sommes en train de revivre une accélération une évolution de même nature. Il se trouve que la production totale de pétrole dans le monde, donc même en rajoutant ces pétroles dits non conventionnels, s'était arrêtée de croître depuis quelques années, était probablement passée par un maximum fin 2018, et vous voyez que depuis fin 2018, le commerce mondial avait commencé à stagner, voire décroître, la production industrielle dans l'OCDE avait commencé à décroître, etc. Et ce mouvement va s'accélérer dans les années à venir. Donc malheureusement, très mauvaise nouvelle pour vos auditeurs, nous ne retrouverons pas la croissance dans les années à venir, et probablement que le niveau de production que nous avons connu en 2007 sera pour l'Europe un maximum historique auquel on va avoir du mal à revenir. Donc c'est bien dans ce cadre-là qu'il faut réfléchir. À partir du moment où vous savez de façon absolument certaine que votre fiche de paye ne va pas augmenter, mais même légèrement s'éroder à l'avenir, la raison commande de voir comment on arrive à s'organiser dans ce genre de monde et comment on arrive à ne pas perdre espoir dans ce genre de monde.
Oui, il y a deux choses dans ce que vous dites, Jean-Marc Jancovici. D'abord, c'est que la sortie de l'énergie carbone va se faire de gré ou de force. De force parce que la ressource pétrole diminue et qu'elle va s'éteindre progressivement dans les prochaines décennies.
En Europe, on est déjà de force, malheureusement.
Déjà de force. Et la deuxième chose, c'est que vous expliquez que notre source de croissance
C'est le pétrole, c'est l'énergie carbone ?
Oui.
Vous êtes sûr de ça ?
Oui, parce que c'est ça qui a permis de nous construire un costume d'Iron Man pour de vrai, grâce aux machines qui fonctionnent avec du pétrole, du gaz et du charbon. Et même en France, l'essentiel des machines fonctionne au pétrole. Nos voitures fonctionnent au pétrole, nos camions fonctionnent au pétrole et au gaz, allez, on va dire au combustible fossile. Nos chaudières fonctionnent au fioul et au gaz bien avant de fonctionner à l'électricité. Une bonne partie des machines industrielles, en particulier toutes celles qui permettent de fabriquer de l'acier, du plastique, du ciment, etc., fonctionnent au charbon, au gaz et au pétrole. Donc les combustibles fossiles, c'est ça qui ont permis de mettre en route un énorme costume d'Iron Man qui a multiplié la puissance de nos muscles par 1000, 1 million, 10 millions parfois. Un laminoir industriel, il est puissant comme 10 millions de fois les muscles de l'ouvrier qui le commande. Donc c'est ces machines qui nous ont donné une puissance surhumaine et qui permettent de faire la production. C'est pas vous ni moi qui avez fait l'acier qui permet de faire les boutons que vous portez sur vous et la voiture que vous avez peut-être utilisée ce matin. Donc c'est les machines qui produisent tout ça. Et avec moins d'énergie, vous avez moins de... Alors une expression que j'utilise souvent, c'est des croquettes pour machines, hein, l'énergie. Donc vous avez moins de nourriture pour machines et donc moins de machines au travail et donc ouais. Moins de production. Malheureusement, c'est très mécanique et il va falloir qu'on fasse avec.
Alors, je reviens à ma question de départ. Est-ce que la décroissance n'est pas synonyme forcément d'appauvrissement généralisé ?
Au sens où on l'entend classiquement avec le PIB, évidemment que si. Maintenant, la question, c'est encore une fois, sachant que de toute façon, on ne va pas y échapper, comment on s'organise ? Vous savez, dans les modèles économiques qu'on utilise aujourd'hui, la croissance n'est jamais une conclusion du modèle avec des hypothèses qui tiennent la route, c'est une donnée d'entrée. Alors ça va peut-être vous étonner ce que je vous dis, mais la croissance, elle est postulée dans les modèles. Les modèles ne prévoient pas la croissance. Ils prévoient, allez, on va dire, une modulation de cette croissance en fonction de la manière dont on s'organise, mais elle est toujours postulée au départ. C'est ça qui est très étonnant. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est comme ça que ça marche. Et si les modèles étaient prédictifs, on aurait vu venir la crise qu'on a en ce moment. Donc la croissance, malheureusement, c'est un souhait, parce qu'on a des désirs de croissance. Il y a des neurobiologistes qui expliquent très bien ça. Notre cerveau primitif, qui date d'il y a des dizaines de milliers d'années, il est câblé pour qu'on en veuille toujours plus, parce qu'on ne sait pas quand sera la prochaine fois où on aura à manger, ou la prochaine fois où on aura l'occasion d'avoir ceci ou cela. Et du coup, on a beaucoup, beaucoup de mal à se limiter. Mais c'est un désir. La planète, elle est ce qu'elle est, et malheureusement, à 8 milliards d'individus, il y a des moments où nos désirs, ils butent sur l'horizon physique du possible.
Je reviens.
Oui. Si on sait s'organiser. Encore une fois, ce qui est essentiel, c'est d'avoir confiance en l'avenir. Et moi, je considère qu'un monde qui va se contracter alors qu'on nous raconte des sornettes sur le fait que la croissance va revenir est un monde beaucoup plus dangereux qu'un monde qui sait s'organiser pour qu'on conserve de l'espoir dans ce genre de contexte.
Je reviens à votre plan, Jean-Marc Jancovici. Je le disais, ébauche de plan, mais détaillé chapitre par chapitre, mobilité, énergie, logement, santé, industrie, culture, agriculture. Est-ce qu'on peut tout faire en même temps ou est-ce que vous estimez qu'on pourrait définir un ordre de priorité ?
Alors, ce qu'on va devoir définir, c'est un ordre de priorité dans les moyens. Et vous parliez tout à l'heure du nucléaire. En fait, mon tropisme pour le nucléaire vient exactement de cela, vient d'un ordre de priorité pour les moyens. C'est-à-dire que je considère qu'aujourd'hui, vouloir remplacer du nucléaire qui est là, qui fonctionne, qui en France n'a tué personne, alors qui fait courir des risques, mais le tabac en fait courir beaucoup plus chaque année et il reste en vente libre. Donc je suis pas sûr qu'il faille commencer par supprimer le nucléaire avant de supprimer le tabac. Eh bien, vous avez un ordre de priorité sur les moyens. Donc à partir du moment où on peut pas tout faire, il me paraît plus urgent de reconvertir une partie de la circulation automobile en autre chose, de réorganiser le paysage agricole, de réorganiser nos villes et de nous occuper des logements que de remplacer des centrales nucléaires qui ne présentent pas de danger plus que ça quand on compare à autre chose par des éoliennes et des panneaux solaires. Voilà, c'est ça c'est au titre de cet ordre de priorité que je considère que le nucléaire c'est très très bien dans son principe. Après, ça ne veut pas dire qu'au sein même du nucléaire il n'y ait pas un débat. On peut discuter si on veut de est-ce qu'il faut construire des EPR tout de suite ou prolonger les centrales. Ça c'est un débat intéressant du reste. Mais le fait qu'il faille conserver voire augmenter de l'énergie nucléaire pour amortir globalement le risque de se retrouver dans une situation inconfortable est pour moi la conséquence de ce que je viens de dire, c'est-à-dire un ordre de priorité dans les combats. Et quand on est en course contre la montre, il faut vraiment bien choisir ses priorités parce qu'on n'a pas deux essais.
Un mot rapidement, Jean-Marc Jancovici, sur la poursuite du chantier que vous avez lancé. Donc vous avez lancé un financement participatif, un appel à consultation sur ce document.
Oui, alors on a lancé un financement participatif parce que le Shift Project est une association d'entreprises. C'est une des particularités de notre association. Donc on est une association environnementale. On s'intéresse à la question environnementale. On est quand même financé par des entreprises. Alors les gens vont dire, ah, si on est financé par des entreprises, on n'est pas libre de notre parole. Un peu quand même, parce que les entreprises qui battent les pieds chez nous savent un peu à quoi ressemble mon indépendance d'esprit. Mais par contre, sur ce chantier-là, on n'avait pas le temps d'aller discuter avec des mécènes entreprises en leur disant est-ce que ça vous intéresserait de financer ça. Donc on s'est lancé dans une première, mais qui restera limitée à ce chantier, qui est qu'on a fait appel au grand public en lançant un chantier, effectivement un financement participatif. Et on a eu l'énorme surprise, parce que moi je ne m'y attendais pas du tout, de voir que l'objectif qu'on vise, alors qu'on se donnait 3 mois pour l'atteindre, en 15 jours, là on l'a quasiment atteint. Donc ça veut dire qu'il y a une grosse appétence, à mon avis, pour ce sujet-là. Et c'est un motif d'espoir que j'ai, c'est que je constate que dans la situation actuelle, qui est quand même une situation dure, il y a encore une fois des millions de gens qui vont perdre leur job. Il me semble que l'intérêt pour bâtir un monde environnementalement meilleur ne faiblit pas. Au contraire, un certain nombre de gens placent de l'espoir dans le fait que ce grand coup sur la tête là qu'on va prendre va nous être utile pour changer la manière dont on s'organise pour l'avenir.
Merci beaucoup Jean-Marc Jancovici. Je rappelle le titre de votre think tank, The Shift Project, et on peut trouver sur votre site évidemment ce document et toutes les informations nécessaires. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin.
Eh ben, merci à vous.